je vous parle de diversité, mais avant, je vais vous parler d'un croisement entre linguistique et ornithologie. Je me sens un peu ornitholingue, nas des guides et corps de mammifères. Donc, un exemple qui me tient à cœur, parce que j'en suis très fier, je crois avoir élucidé le nom du lagopède alpin qui, en Haute-Bigorre, donc dans la vallée du Haut-Adour, il se dit Justagard, et dans la vallée du Lavedan, il se dit Garrillesègue. Alors, jusqu'à présent, dans les dictionnaires, Garrillesègue s'est interprété comme poule de haie, parce que sègue, ça veut dire haie. Et Justagard, c'est interprété comme jeûner poule, donc poule de jeûner. Alors, c'est bien joli comme ça, mais en fait, c'est assez absurde parce que le lagopède alpin ne côtoie ni les haies, ni les jeûners. Donc, ça m'avait quand même intrigué. Alors, j'ai étudié la question. Et sègue, en fait, c'est un vieux mot gascon qui veut dire aveugle, conservé en catalan d'ailleurs. On a ciega en espagnol. Donc, garrillesègue, sègue, c'est la poule aveugle. Et Justagard, là aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, gar, il y a le pic du gar, Ugaroc, Ugar, c'est un rocher. Et justa, il y a ajusta qui veut dire ajouter, c'est jouxté. Donc, ça veut dire qu'il jouxte les rochers. Donc, bon, donc d'un point de vue linguistique, la question est éclaircie, mais il faut encore comprendre pourquoi. Alors, c'est un oiseau qui fait du mimétisme. L'hiver, il est tout blanc. L'été, il est de couleur des rochers. Alors, il est tout blanc, sauf il y a un petit problème. C'est qu'il a des yeux noirs, très brillants. Et donc, ça peut le trahir si un prédateur arrive, il se couche au sol. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse par ses yeux. Alors, il ferme les paupières. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la garrillesègue. Et ensuite, l'été, il jouxte les pierres, tout simplement, pour se cacher. Voilà l'efficacité du croisement de deux sciences. Alors, je vais rentrer dans les questions de diversité. Donc d'abord, ces noms d'héritage, donc, qui sont principalement latins, mais on va voir qu'il y en a aussi des celtes et des germaniques. Alors, latin, je fais une énumération. Merula, merlu, tourdous, tourde, parus, par, tourtour, tourtour, pic, pig, Columbus, culum, palumbus, palum, aquila, aigle, passer, passer. Vous voyez la correspondance, on parle pratiquement latin en gascon. Celte, il en reste un, c'est alaud, qui est venu par le latin peut-être, mais vous connaissez Astérix, il a deux ailes d'alouette sur la tête. Donc c'était vraiment un oiseau emblématique pour les Celtes, pour les Gaulois. Et donc, le gascon a un nom celte, unique. Maintenant, il y a une dizaine de variantes phonétiques. Je vous passe le détail. Il y a Caweca aussi, qui est une racine, la chouette, qui est une racine celte. Et après, il y en a quelques-uns qui sont germaniques. Alors, comme en français, on a Esparbet pour l'épervier, qui est en concurrence avec Astourette, qui est le petit autour, qui vient de accipiter, du latin accipiter. On a meyeng, la mésange, qui vient du francique meising, et qui est en concurrence avec par, qui vient du latin parus, parincle dans les Landes. On a agas, qui est en concurrence avec pig, qui vient du latin. Agas vient du germanique agas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste de la période aquitanique, pré-latine, pré-indo-européenne ? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, le substrat basque joue plutôt sur la phonétique que sur le lexique en gascon. Alors, j'en ai trouvé deux quand même qui sont assez convaincants. La choure, la chourette, la mariochoure, c'est le troglodyte. C'est un tout petit oiseau, c'est presque le plus petit. Et en basque, petit oiseau, c'est chori. Il y a quand même une certaine ressemblance. Et puis, du côté du Val d'Aran, on a le vautour qui se dit Arian. Et en basque, l'aigle, c'est Arano. Donc, on a peut-être quelques héritages. Alors, la diversité vient déjà de ces racines de différentes langues. Mais je vous disais qu'il y a une grande diversité phonétique. Je prends l'exemple du moineau, passer en latin. On a le féminin qui est du gascon, passera, qui est utilisé en Gironde d'ailleurs. Mais après, on a des diminutifs. Passerotte, passeroun, passerate. Bon, on pourrait en rester là. Mais il y a des phénomènes qui sont bien connus de métathèse, d'aphérèse, de prothèse, de syncope, qui font qu'on peut avoir d'autres formes. De passerotte, on passe à pachirotte, à pachiroc, on fait une aphérèse et on a chiroc. Alors, c'est pas évident que le passer, qui est girondin, et le chiroc, qui est landais, ont la même étymologie. On a également de passerou, on arrive à parou en béarnais, parce qu'il y a eu une syncope, le se est tombé. Et puis, dans le Gers, on passe de passerat à parat, parce que le se est tombé également. Vous voyez un petit peu les mécanismes qui donnent une variété de formes absolument extraordinaires, avec la même étymologie. Maintenant, ça ne fait jamais qu'une quarantaine de noms d'oiseaux qui sont hérités des langues anciennes, je dirais. Et donc ensuite, il faut créer ce qui manque. Donc là, c'est l'inventivité, c'est la créativité gasconne, je dirais. Et donc, on fait des mots, c'est souvent des mots composés, et on observe les oiseaux. Donc, les noms d'oiseaux sont très variés selon leurs caractéristiques. Et ensuite, ces inventions sont locales. Donc, finalement, il y a une diversité extraordinaire parce qu'une belle trouvaille va devoir avoir du succès qu'au niveau d'un canton, pratiquement. Donc, on multiplie les créations et ça fait une grande diversité. Et puis, il y a une autre, d'autres oiseaux qui sont, comme dirait Umberto Eco, selon leur signature. C'est-à-dire, c'est du symbolisme, c'est de la légende, c'est de l'anthropomorphisme. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vous donne quelques exemples de création lexicale. Alors, on s'intéresse à la couleur, au chant, au comportement. Couleur. Un oiseau blanc, le grand blanc, c'est le cygne. La marie blanche, c'est le pernotaire d'Égypte. Un oiseau noir. La macreuse, c'est un curé, parce que ça ressemble à un curé. Une mésange à tête noire, c'est une cabnègre. Une mésange à tête bleue, c'est la pare bluette. Berdaul, c'est un mot qui est très connu, qui désigne le bruant. On les mangeait, c'était un peu les ortolans, les bruants jaunes. C'est aussi la bergeronnette des ruisseaux, qui est un peu verte, un peu verdâtre. On a également les chants, donc chiribit, ce sont des onomatopées. Chiribit pour la marouette, ourou pour le hibou, tcha-tcha pour la grive, l'itorne, tartatch pour une fauvette, churiluc pour le pinson, charisque pour le serincini, pioun pour le bouvreuil, qui a un cri très plaintif. On a des métiers, poudrebrout, boutigué, carnussé, et puis on a le vol, la rasarib ou le martinet qui boit en rasant les ruisseaux. Le trotte-camille, le pipit-parlouze. Le pitourne, qui est le chevalier qui tourne les pieds en marchant. Le pique-casse, qui tape les chaînes. Et puis même les migrations, il y a des oiseaux migrateurs. Deux jolis exemples. L'oisagnette des Saint-Marty, qui est la huppe faciée et qui passe à la Saint-Martin. C'est le coquelet de Saint-Martin. En aragonais, on dit gaillette des Saint-Martin. C'est la même idée. La boute des rabucates, qui est à la Vallée-Aspe, le pernoptère d'Égypte, qui arrive au printemps, au moment de la lessive de printemps. La bucate, c'est la bugade, c'est la lessive. Et puis, il n'y a pas que des migrations. Il y a, par exemple, le rouge-queue, qui était montagnard, qui est devenu urbain. On a maintenant le rouge-queue, le coup d'arouille, qu'on peut voir dans les villes.